Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans nos cœurs il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris, une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès.
Alors je vous souhaite la bienvenue à tous. Dans cette soirée des Jeudis des Colibris, nous allons parler de la communication intime, la communication dans le couple. Nous allons parler d'amour ce soir. Pour cela, mes deux invités ici présents sont Serge et Carole Vidal-Graff. Je vous remercie beaucoup d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Serge et Carole sont psychothérapeutes gestalt. Ils sont spécialisés dans la communication et l'accompagnement des couples. Ils ont accompagné des couples pendant 15 ans, notamment dans des groupes de développement personnel. Et ils sont également auteurs de plusieurs ouvrages sur ces sujets. Le premier livre qu'ils ont écrit, que j'ai adoré personnellement, qui m'a fait les connaître, c'est « Mais tu ne m'avais jamais dit ça ». Et puis, il y a aussi « La colère, cette émotion mal aimée ». Et enfin, un titre croustillant, « Comment bien se disputer en couple ». Et le dernier livre qu'ils ont écrit, c'est « Couple rêvé, couple réel ». Et c'est justement le sujet que nous allons aborder ce soir. Il faut savoir que ce livre est en open source sur leur page Facebook, donc vous pouvez vous le procurer et donc le lire gratuitement. Voilà. Je vais passer la parole donc à Serge et Carole, puisqu'ils ont un sujet qui est bien rodé. Je pense que je ne vais pas beaucoup intervenir ce soir. Voilà, je vous passe la parole.
Merci, merci. Bonsoir. Donc, Serge et moi, le parcours professionnel, c'était 25-30 ans de thérapie, de thérapeute, de couple, principalement beaucoup d'accompagnement de couple, des centaines, mais surtout aussi notre vie de couple. Nous sommes un couple depuis une trentaine d'années et un deuxième couple pour chacun de nous, avec d'abord beaucoup de peur de se réengager dans ce deuxième couple, et puis ensuite, une fois que c'était fait, l'envie vraiment de réussir dans la durée. Et donc, nous n'avons pas eu d'enfants ensemble. Et donc, on a eu beaucoup de temps grâce à ça, parce que les enfants, ça prend du temps, à développer notre relation, à comprendre notre relation, à se l'expliquer, à voir les difficultés et comme ça, à pouvoir trouver des solutions, trouver des outils et à partir de là, de pouvoir les transmettre. Parce que couple rêvé, couple réel, il y a le couple rêvé qu'on voit au cinéma, dans les films, dans les chansons, très romantique. Ça finit souvent très bien, ou alors c'est une vraie catastrophe. Mais donc ça, c'est un peu le couple rêvé. Et puis le couple réel, c'est le couple de nos parents qu'on a connus, ou dans nos familles, des adultes, enfants qu'on a vus, les couples. Et c'est souvent difficile de mettre ensemble ce qu'on a vécu dans notre réalité, dans notre ressenti, et ce qu'on se raconte dans notre culture par rapport au couple. Et donc, voilà, le couple rêvé, c'est ce qu'on aimerait faire, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et le couple réel, souvent, surtout pour ces jeunes qui nous avaient demandé cette conférence, c'était quelque chose qui leur faisait peur, parce que c'est des générations maintenant qui ont connu des parents divorcés. Je veux dire, dans une classe aujourd'hui d'adolescents, sur 20 élèves, vous en avez entre 16 et 18 qui sont de parents divorcés. Donc après, quand eux arrivent à l'âge de 25, 30 ans et qu'ils ont envie de s'engager, bah, ça leur fait peur parce qu'ils se disent « bon, mais nos parents, ils ont raté, comment nous, on va réussir ?» Parce que c'est comme s'il y a quelque chose chez l'être humain qui a quand même envie de réussir une vie de couple. Enfin, réussir en tout cas. Pour encore définir ce que ça veut dire réussir. Mais... Et notre génération, nous, on a plutôt vu des parents qui étaient obligés de rester ensemble, hein, et qui n'avaient absolument pas les outils nécessaires à la communication qui est nécessaire quand on veut vivre un couple dans la durée. Et donc, ça tournait souvent à l'enfer, à des situations hyper difficiles. Et donc, ça a créé une génération qui a beaucoup divorcé. Et donc, ça a créé une génération encore après qui a eu des parents divorcés. Donc, vraiment, le couple, maintenant, est dans une transformation... Enfin, il faut repenser le couple. Il ne faut pas le réinventer parce qu'il existe, mais il faut le repenser vraiment. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Dans ce couple rêvé et couple réel, nous avons dégagé trois thèmes qui nous semblaient importants, enfin très significatifs par rapport à cet écart entre le couple rêvé et couple réel. Il y a l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager? Il y a la sexualité et il y a les conflits. Ce sont trois thèmes qui nous ont paru intéressants de confronter entre le couple rêvé, où en général il n'y a pas tous ces problèmes, et le couple réel, où on est confronté à ce genre de problèmes. Alors, je vais d'abord parler de l'engagement. Donc, dans le couple rêvé, ben, il n'y a pas d'engagement, on s'aime et voilà. Dans le couple réel, on s'engage. Et qu'est-ce que ça veut dire, on s'engage ? Alors, on est encore dans une culture qui a une conception du couple qui date du 18e, du 19e, c'est-à-dire une conception hyper romantique où, à l'époque, on s'engageait pour très peu d'années. On oublie ça. Voilà, ça, c'est ma formation d'historienne. Mais on dit toujours, dans le temps, les gens, ils restaient toute leur vie ensemble. Ah oui, mais ils mouraient entre 25 et 30 ans. Donc, c'était court, leur vie. 1850, à espérance de vie, 35 ans. Espérance de vie moyenne, enfin on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, si on regarde, les couples jusqu'en 1900 durent entre 5 et 12 ans de longévité. Donc c'est très court en fait. Et c'est à partir du 20e siècle, du début du 20e siècle, que tout d'un coup l'espérance de vie s'allonge. Et où on arrive à des âges où tout d'un coup on vit en couple 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Maintenant, des jeunes qui ont 25 ans, s'ils veulent s'engager, comme au 19e siècle, ils s'engagent pour 50 à 60 ans de vie. C'est énorme et c'est très nouveau à cette grande échelle dans la société humaine. Dans le temps, les gens s'engageaient, voilà, et puis c'était la mort qui les séparait. Il y avait les maladies, il y avait les guerres, on était tout le temps en guerre pratiquement, et puis il y avait les accouchements pour les femmes. Donc, les mariages duraient peu de temps. Et donc, c'est pour ça que c'était des mariages de jeunes qui étaient encore très... qui étaient très motivés, mobilisés par leurs hormones. Et quand ils disaient à quelqu'un « je t'aime », ils lui disaient en fait « je te désire ». Et puis, c'est pas la même chose quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Quand on dit « je t'aime », on ne dit plus la même chose que quand on dit « je t'aime » à 20 ans. C'est-à-dire que plus les années passent, plus on arrive à décoller ces deux concepts de désir et d'amour. Et donc, ça change complètement la conception du couple. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une autre affaire aujourd'hui quand on s'engage dans un couple à 25 ans que quand on s'engageait dans un couple à 16 ou 18 ans, même déjà encore au 19e siècle. Donc, c'est vraiment l'idée de l'engagement. On ne s'engage plus qu'une seule fois dans une vie de couple. On s'engage quand on se rencontre, on s'engage quand on se met à vivre ensemble. C'est un premier engagement. On s'engage quand on va faire des enfants ensemble. On s'engage à ce moment-là. On s'engage quand on achète une maison ensemble. Et puis le temps passe. On s'engage à la vieillesse. On s'engage dans la maladie, dans l'accompagnement de la maladie. Il y a plein de manières, enfin, il y a plein de moments où dans une vie de couple, on s'engage et on se réengage. Donc, on ne s'engage pas une seule fois le jour, éventuellement, où on va à la mairie et on dit oui. Ça, c'est un concept plus ancien, en fait. Donc, c'est ça le couple, pour moi, le couple réel, c'est de réaliser que il n'y a pas un engagement, il y a une suite d'engagements dans un couple réel. Et à chaque fois, on se repose la question, voilà, est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne? Est-ce que pour cette prochaine étape de vie, je me réengage? Donc ça, c'est le premier thème de l'engagement. Et le deuxième thème, qui est la sexualité, je te laisse la parole.
Grand sujet, n'est-ce pas? La sexualité dans la durée, c'est évidemment une question qui, je pense, vous a déjà préoccupé, à propos de laquelle vous vous êtes posé des questions. Et donc, ce soir, on va à la fois essayer d'y réfléchir ensemble et nous allons vous proposer quelques pistes dont nous sommes convaincus qu'elles sont utiles. Alors, couple rêvé par rapport à la sexualité, c'est ce qu'il est convenu d'appeler la lune de miel. C'est-à-dire, tout baigne, tout est facile, le désir est là en permanence, aussi bien chez l'homme sous forme d'érection que chez la femme sous forme de sécrétion. Donc, tout est simple, tout se passe sans même qu'il faille en parler, c'est comme une évidence, on est de part et d'autre dans un grand désir. Et aussi, c'est une période qui se caractérise par le fait que s'il y a des difficultés, on fait comme s'il n'y en avait pas. Parce que, ma foi, le sentiment amoureux est tellement fort que, ne compliquons pas notre vie, n'en parlons pas. Ça, c'est donc le couple rêvé. Après, couple réel, quand la lune de miel se termine, alors la lune de miel, elle se termine, parfois on me demande ça dure combien de temps, une lune de miel. Je veux dire, ça dure entre 3 heures et 3 ans. Donc voilà, c'est extrêmement personnel. Je n'ai jamais entendu de couple qui pouvait se dire dans cet état de lune de miel plus que 3 ans. Déjà 3 ans, c'est exceptionnel. Je dirais en moyenne, la lune de miel, ça dure quelques mois. Et donc, quand la lune de miel se termine et qu'on se confronte à la réalité de la sexualité, les deux principales difficultés, c'est d'une part une différence quant à la fréquence, quant à l'envie de la fréquence des rapports sexuels. Alors on dit généralement les hommes ont plus souvent envie que les femmes. Je pense que c'est globalement vrai, je pense que c'est culturellement vrai. Mais il y a aussi évidemment des couples où c'est l'inverse et où on se trouve en présence d'une femme qui se plaint de ce que son compagnon, son mari, n'a pas aussi souvent envie de faire l'amour qu'elle. Alors c'est une difficulté à laquelle presque tous les couples se confrontent. C'est très très rare qu'il y ait une parfaite harmonie sur la fréquence. Et je pense, nous pensons, après avoir, comme Carole le disait tout à l'heure, travaillé avec beaucoup de couples, que c'est pas une bonne idée de faire des efforts. C'est mieux d'accepter la réalité et de ne pas chercher sur base, par exemple, de lecture ou de ces multiples enquêtes qui sont dans les journaux, d'essayer de convaincre l'un des deux que c'est pas normal. Parce que ça ne mène à rien. Donc, de dire, mais c'est pas normal que tu n'aies envie qu'une fois par mois. Ça n'aide pas. C'est pas normal que tu aies envie tous les soirs. Ça n'aide pas non plus. Donc, essayez de ne pas être dans le jugement, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette différence de rythme? Une chose que nous proposons et qui est souvent difficile à entendre, c'est ce que nous appelons, c'est peut-être pas nous qui avons inventé l'expression, les rendez-vous d'amour. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une difficulté par rapport au rythme? C'est que c'est une source de tension. Donc, celui qui a plus souvent envie se dit, mince, ça fait déjà 3 jours, 4 jours, 5 jours. Est-ce que ça va être ce soir? Est-ce que ça va être demain? Ah, aujourd'hui, il a l'air de bonne humeur, peut-être que ça va se passer. Ou elle a l'air souriante, peut-être que c'est pour ce soir. Donc ça crée un climat qui est peu agréable. Tandis que de décider, et si on faisait l'amour mercredi prochain, on n'a rien mercredi, t'as vu, de nos agendas. Ça serait pas mal qu'on réserve notre soirée pour faire l'amour. Inutile de dire que la première objection qui vient, mon Dieu, c'est pas du tout romantique.
Ça fait rire hein, dans la salle.
Ça fait rire. Si je dois prendre rendez-vous avec la femme que j'aime ou avec l'homme que j'aime pour faire l'amour, mon Dieu, où en sommes-nous? Eh bien, je pense que c'est dommage parce que c'est notre expérience et c'est notre expérience de thérapeute de couple. Ça peut vraiment amener à quelque chose de beaucoup plus détendu parce que celui qui a envie plus souvent, peut au moins se dire, bon ok, peut-être que j'aimerais que ce soit ce soir, mais je sais que c'est mercredi, c'est pas dans si longtemps, donc ça me rassure et je dirais, ça me permet de pas faire la gueule, en fait. Parce que c'est surtout ça qui est dommage. C'est que c'est une source de tension et où, sans forcément que la vraie raison soit dite, ça crée une tension dans le couple qui est regrettable.
Dans l'autre sens aussi, pour la personne qui a moins souvent envie, c'est aussi une pression que de se dire, oh là là, ça fait déjà une semaine, on n'a pas fait l'amour. Il va m'en vouloir, il faut que je m'y mette. Allez, ce soir, oh non, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Alors demain, promis, je me ferai demain. Et ça fait aussi beaucoup de tension chez une personne de devoir se préoccuper, de devoir avoir envie de faire l'amour. Donc, dans les deux sens, pour les deux protagonistes, je trouve que c'est utile. Rendez-vous.
Ouais, merci pour cette importante précision.
La 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 la
c'était Inner Circle du reggae sexy dans le chant des colibris. J'espère que ça vous a fait bouger là où vous êtes. Ça date, mais c'est toujours aussi bon, Inner Circle. C'est d'ailleurs ce que doivent se dire les couples qui durent. Ça fait longtemps, mais c'est toujours aussi bon. Alors, quels sont leurs secrets pour faire durer l'amour ? Accepter la réalité semble être un des secrets pour ne pas comparer le couple réel au couple rêvé dans nos idéaux romantiques. Alors Carole et Serge Vidal-Graff, eux, sont en couple depuis 30 ans. Psychothérapeutes, ils ont accompagné des centaines de couples et nous livrent aujourd'hui quelques outils pour que ça marche. Le premier outil, c'est le rendez-vous d'amour. Il s'agit simplement de caler dans nos agendas respectifs souvent surchargés des rendez-vous d'amour réguliers avec notre partenaire, même si et d'autant plus si nous vivons ensemble, histoire que le quotidien n'étouffe pas la joie de partager l'amour et la sensualité.
Donc la première difficulté, je disais, c'est cette différence par rapport au rythme auquel l'un et l'autre peuvent avoir envie de faire l'amour. Une autre difficulté qui est revenue énormément dans nos consultations de couple quand la question de la sexualité était abordée, c'était une difficulté, et de nouveau plus souvent exprimée par les femmes que par les hommes, d'une manière prévisible de faire l'amour. C'est-à-dire, je vais caricaturer, mais au bout d'un certain temps, quand on commence à se connaître, on détermine ce qui semble plaire à l'autre, et donc on installe une manière de faire l'amour qui a tendance à se répéter un peu toujours de la même manière. Et c'est une chose dont, je le répète, les femmes principalement se plaignent, mais je ne suis plus jamais surprise. Je sais exactement que ça va être point 1, point 2, point 3. Et ben, ça m'ennuie. Et donc, je pense que c'est beaucoup à partir de là que vient cette idée fausse que, d'une manière générale, les hommes sont plus intéressés par la sexualité que les femmes. Je suis persuadé que ce n'est pas vrai. Mais cette question de la répétition et du caractère prévisible est plus douloureuse chez les femmes que chez les hommes. Alors, on pourrait réfléchir longuement au pourquoi. Je pense de nouveau que c'est complètement culturel. Quoique, j'entends Carole qui fait une objection.
On veut bien ton avis, Carole.
Ils ont quand même fait quelques scanners pendant que les hommes et les femmes étaient excités. Et on a vu que les hommes, c'était beaucoup la vue, les centres de la vue et de la prévision. L'anticipation qui excite sexuellement un homme quand il se dit « Ah, je vais faire l'amour, puis ça va être comme ça, puis elle va être comme ça, puis je vais la voir comme ça. » Et ça, ça lui donne de l'excitation. Alors que la femme, elle est excitée sexuellement par le mystère, ne pas savoir comment ça va se faire. Est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va me toucher là ? Et c'est ça qui excite une femme. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, les rails sont plus souffrants pour les femmes que pour les hommes.
Qu'est-ce qu'on est différent, hein ?
Merci pour cette précision, Carole.
Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? C'est une vaste question, donc, avec cette tendance des hommes à s'installer dans ce que j'appellerais un programme. Donc une fois qu'ils ont déterminé que ce programme semblait bien marcher, ben pourquoi en inventer un autre, c'est pas la peine. Donc l'idée n'est évidemment pas juste de changer de programme, ce qui est insuffisant, parce qu'on va retomber alors assez rapidement, donc ben c'est plus le programme numéro 1, c'est le programme numéro 2, mais enfin c'est pas très différent. Donc la vraie différence, elle va consister, et c'est tout un travail, c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, à être moins dans sa tête et plus dans son corps. Parce que quand même, c'est aussi une caractéristique, alors qui existe bien sûr chez les hommes et chez les femmes, mais je pense un peu plus chez les hommes que chez les femmes, qui est de faire l'amour avec sa tête. C'est-à-dire, si effectivement j'ai dans ma tête l'idée que, mais je sais qu'il faut que je commence par lui dire des gentils mots d'amour, et puis que je l'embrasse, et puis que je la caresse si possible sur le corps entier, et puis que je lui caresse peut-être un peu plus les seins, et puis que j'aille voir du côté de son sexe comment ça se passe. Si je suis là-dedans, je suis dans ma tête. Je suis un programme. Qui m'est proposé en quelque sorte par mon mental. Et donc le vrai changement consiste à passer du mental aux sensations. Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? De quoi est-ce que mon corps a envie ? Qu'est-ce que mon corps me propose ? Alors je répète, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est tout un travail dont on pourrait dire que c'est globalement un travail de conscience. Que c'est un travail d'apprentissage à pouvoir répondre à la question « qu'est-ce que je sens ?» Moi, je me souviens d'une époque où quand on me posait la question « qu'est-ce que je sens ?» je ne sais pas. Je sais, qu'est-ce que je sens ? Quelle drôle de question. Je peux dire ce que je pense, mais ce que je sens, ça, c'est autre chose. Donc, il y a vraiment un apprentissage qui peut prendre du temps, qui demande de la persévérance, qui demande de la patience, mais dont les résultats, à mon avis, valent véritablement la peine. Parce que, qu'est-ce qui est fondamental là-dedans ? C'est qu'évidemment, on peut, dans ces conditions-là, être soi-même surpris de la forme que la rencontre sexuelle va prendre. C'est-à-dire que ce sont plus les corps que les têtes qui vont, entre guillemets, décider de ce qui va se passer. Et ça, c'est un changement vraiment considérable. Tu as envie de dire quelque chose,
oui, je sens. La bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que les jeunes aujourd'hui, les nouvelles générations, soient plus sensibles que les anciennes, parce que la pénibilité de la vie étant moins forte au niveau des métiers, par exemple, simplement, mais aussi au niveau des maladies, on souffre beaucoup moins, donc on développe plus sa sensibilité. Et aussi le fait que les corps aiment faire l'amour. Se mettre nu dans un lit avec un partenaire ou une partenaire et laisser faire l'amour. Les corps aiment faire l'amour. Ils aiment être touchés. Alors, faire l'amour, c'est pas forcément pénétration, orgasme et au revoir, quoi. C'est quand je dis faire l'amour, pour moi, c'est vraiment très global. La pénétration, l'orgasme, l'éjaculation, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Mais il faut aussi consommer le gâteau parce que c'est sympa le gâteau. Et ça, c'est tous les moments où on se touche, on se caresse, on se parle, on se colle, on respire ensemble, où on fait rien, on est juste dans les bras l'un de l'autre, nus. Déjà, rien que ça, c'est, pour moi, c'est déjà une sexualité. Et c'est une sexualité extrêmement nourrissante pour le corps, pour les corps et pour le couple. Voilà ce que je voulais dire.
Super. Donc, en résumé, rendez-vous d'amour d'une part et se mettre tout nu l'un contre l'autre dans le lit sans avoir de projet d'autre part. Voilà, ça c'est... En gros, un résumé un peu grossier de la réflexion qu'on vous propose.
Donc le rendez-vous d'amour, si j'ai bien compris, c'est simplement se mettre nu dans un lit avec son partenaire sans avoir décidé rien de ce qui va se passer. Rien que ça, c'est un rendez-vous d'amour. Voilà. Donc il n'y a pas la pression forcément de devoir passer à l'acte, de devoir satisfaire son partenaire, etc. C'est simplement le plaisir d'être nu l'un contre l'autre et on voit ce qui se passe. Et là on peut faire confiance effectivement à la nature, c'est ça que vous dites. Hein.
C'est ce que je dis, mais en même temps quand je t'entends dire ça, ça c'est idéalement, hein, parce que l'absence de pression totale, c'est pas évident. Hein.
Ça fait pas trop partie du monde humain.
Et...
Ouais, bon. On tend vers ça.
C'est plus facile si justement, par exemple, on fait un rendez-vous d'amour une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, enfin peu importe. On est moins dans la pression. Si c'est évidemment une fois tous les 6 mois, là, il y a beaucoup d'attentes d'un côté et de l'autre.
So tired.
Vous êtes toujours là, de l'autre côté du poste. C'était Portiched avec Glory Box dans le chant des colibris, où la sensualité et la sexualité s'invitent, puisqu'on parle de couple. Et de comment passer du couple rêvé au couple réel. Carole et Serge Vidal-Graff ont écrit un livre sur ce sujet, Couple rêvé, couple réel. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs gratuitement sur leur page Facebook. Mais avant cela, découvrons déjà quelques clés pour s'épanouir en couple.
Alors, on va aborder le troisième chapitre qui est passionnant, qui est le chapitre des conflits. Donc, dans le couple rêvé, il n'y a pas de conflit. Si je reviens à la notion de lune de miel, c'est une période où on ne se dispute pas. On est d'accord sur tout. On est d'accord sur le choix du restaurant, on est d'accord sur le choix du film, on est d'accord sur pour faire l'amour, on est d'accord tout le temps sur tout. Mais ça ne dure pas. Et donc, le couple réel se confronte à la réalité des conflits. Alors, vous avez entendu tout à l'heure qu'on a écrit un bouquin dont on a choisi un titre, j'espère amusant, peut-être un peu provocateur aussi, « Comment bien se disputer en couple ». Ça veut dire que notre objectif n'est en aucune façon de vous convaincre de ne pas vous disputer, parce que ça nous paraît complètement illusoire, et parce que, d'une manière générale, ça ne nous paraît pas non plus un objectif intéressant. Pourquoi ? Parce que je pense que les couples qui ne se disputent jamais ont bien des difficultés à être dans une véritable intimité émotionnelle. C'est comme si on reste d'une certaine manière en surface, on reste dans quelque chose d'assez pensé peut-être, pour revenir à la distinction entre la pensée et le ressenti. Donc les couples qui ne se disputent jamais, à l'extrême, ce sont les couples qui parfois... pas généralisé bien sûr, mais qui parfois se termine avec l'un des deux qui a laissé un petit mot sur la table de la cuisine, je te quitte. Parce que comme on n'a rien abordé, la tension monte, la frustration monte, et finalement c'est comme si la seule solution, ben voilà, c'est même pas la peine d'essayer d'en parler, je m'en vais. Donc ne pas se disputer ne nous paraît pas une bonne idée, d'autant plus que l'émotion associée à la dispute, c'est la colère. Et vous avez entendu qu'on a écrit un autre bouquin dont le titre était « La colère, cette émotion mal aimée ». Nous pensons qu'il y a quatre émotions de base, la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et que être pleinement vivant ou être aussi vivant que possible, c'est avoir accès à ces quatre émotions. Et que donc, penser que la colère, ce n'est pas bien, c'est dommage. Parce qu'il y a une confusion profonde, regrettable, mais très profonde, qui est une confusion entre la colère et la violence. Et donc, autant il est légitime de souhaiter ne pas être dans la violence, autant si on confond colère et violence, on jette le bébé avec l'eau du bain, en se disant, mais je ne veux pas être violent, donc je ne veux pas être colérique. Mais ce n'est pas juste, parce qu'il est parfaitement possible d'être en colère sans être violent. Sans être violent physiquement, évidemment, mais aussi sans être violent verbalement. Ça, c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors, idéalement, ça voudrait dire ne faire des colères qu'au jeu. Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, etc., etc. Ça, c'est mettre la barre très, très haut. Donc, on a essayé de faire ça, on n'y est pas arrivé. Donc, c'est pas la peine de vous...
Le tu est revenu au galop.
Oui, bien sûr. Donc, ça n'a aucun sens pour nous de faire une proposition que nous-mêmes n'avons pas réussi à pratiquer. Donc, limiter l'aspect reproche et être le plus possible dans l'expression de ce que je ressens quand je suis en colère, c'est préférable. Mais voilà, on est humain, on fait ce qu'on peut, donc éviter complètement le reproche à l'autre nous paraît illusoire. Le limiter, c'est déjà pas mal.
Quand on parle de l'autre, dans une colère non violente, on ne va pas le blâmer ou lui faire un reproche à sa personne en entier ou l'injurier, mais on va parler d'un comportement. Quand tu laisses la porte ouverte, ça m'énerve. Là, on utilise le tu, mais on n'est pas dans, on est dans un reproche, mais on explique pourquoi on est en colère. C'est pas tout à fait la même chose que dire t'es un imbécile.
C'est même pas du tout la même chose. Donc, bien se disputer pour nous, ça veut dire se disputer sans violence, comme je viens de le dire, et ça veut dire aussi se disputer brièvement. Parce qu'une des choses qui est vraiment dommage par rapport aux disputes, c'est quand elles génèrent de la bouderie. Et vous savez qu'il y a des hommes et des femmes, ça je crois qu'on est assez égaux à cet égard, qui sont très doués pour bouder,
pour bouder un jour, pour bouder trois jours, pour bouder une semaine parfois. Et la bouderie, c'est vraiment quelque chose de dommage parce que c'est de la non-communication. Et en fait, celui qui boude se punit autant qu'il punit l'autre. Donc, quand on se dispute, de pouvoir se disputer brièvement nous paraît un objectif intéressant. Ça peut vouloir dire aussi que quand l'aspect franchement émotionnel, donc quand la colère est passée, de pouvoir revenir sur ce qui a provoqué le conflit est évidemment une bonne idée. Parce que d'une part, ça maintient la communication ouverte et d'autre part, ça va éviter la plupart du temps justement ce temps perdu. Moi, je trouve que la bouderie, c'est du temps perdu. Donc, si on peut éviter ça, c'est pas mal. Maintenant, si vous êtes effectivement, si vous vous reconnaissez comme boudeur ou comme boudeuse, je pense que c'est intéressant de vous poser la question de savoir si effectivement le premier puni, la première punie, c'est pas vous-même. Et du coup, c'est une bonne motivation pour se dire, ben, je pourrais peut-être essayer autre chose. Un point que je voudrais aussi souligner, parce que peut-être il va vous dire quelque chose, c'est que parfois, les disputes servent à obtenir un état qui est parfaitement légitime et qui est le besoin de solitude. Il y a certains couples qui sont comme enfermés dans l'idée, si on s'aime vraiment, on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble, on ne se quitte pas. Ça ne me paraît pas juste. Moi, j'ai fait la comparaison avec la respiration. C'est comme si être ensemble, c'est inspirer, et être seul, c'est expirer. Bon, si on ne fait qu'inspirer, on meurt. Et dans un couple, je pense que autant les moments de fusion sont beaux et sont justes, s'il n'y a que de la fusion, il va y avoir inévitablement l'émergence d'un besoin de solitude, d'un besoin de se retrouver avec soi-même. Et donc, si ce besoin n'est pas identifié et surtout n'est pas exprimé, on peut alors se servir de la dispute pour arriver à satisfaire le besoin de solitude. Je suis fâché contre toi, donc j'ai le droit de m'en aller, d'aller dans ma chambre, ou d'aller me promener tout seul, ou d'aller peu importe quoi. Mais c'est comme, et ça, c'est un peu dommage parce que c'est plus utile, me semble-t-il, d'aborder la question de « mais en fait, je t'aime et j'aime beaucoup passer des moments avec toi, mais j'ai aussi besoin de moments où je suis sans toi, où je suis seul, où je suis avec d'autres, mais pas toujours, tout le temps avec toi. » C'est une question que je trouve importante. Maintenant, je te repasse la parole, si tu veux bien, à propos d'une distinction importante que tu vas nous proposer.
Oui. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas tous égaux par rapport à la dispute. Il y a des gens plus ou moins disputeurs. Et c'est comme pour la sexualité. Il y a des couples où la sexualité est très importante et des couples où elle l'est moins. On n'a pas tous le même besoin ou vécu sexuel. Et pareil, on n'a pas tous le même besoin vécu conflictuel. Mais ce qui me paraît important aussi, c'est que dans un couple, on est complémentaires. Alors, une des qualités, c'est de ne pas être trop différent. Et en même temps, dans nos différences, on est complémentaires. Si une personne du couple est quelqu'un de plutôt très solaire, très excité, qui parle beaucoup, qui fait plein de choses, etc., il va, je caricature hein, pour la compréhension, il va plutôt rencontrer un partenaire qui va être plus lunaire, c'est-à-dire plus tranquille, plus paisible, plus serein. Et ça, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose à l'autre. Celui qui est tranquille va apporter de la sérénité, de la tranquillité à celui qui est plutôt excité. Et celui qui est plutôt excité et solaire va apporter de la lumière et de la vie à celui qui est plus tranquille. Donc, ils sont vraiment complémentaires. Et c'est ça. Une des grandes forces du couple, c'est la complémentarité. Et quand on rentre en conflit, cette complémentarité, elle devient contradictoire, elle devient opposée. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple un peu caricatural de tout à l'heure, la personne qui est très vivante va, lors de conflits, reprocher à la personne lunaire d'être plan-plan, sans amorphe, enfin d'aller dans le sens du trop vide, trop sans énergie. Et dans l'autre sens, la personne va dire « Oh, mais toi, t'es toujours tellement excité, tu peux pas te calmer un peu, c'est énervant, t'es tout le temps en train de courir partout. » Donc, ce qui était quelque chose qui amenait de la vie à la personne plus tranquille va devenir... Oui, et donc ils vont contradictoires et donc ils vont se disputer à ce propos-là. Donc ça, c'est pour moi, c'est important de toujours voir qu'est-ce qu'on s'apporte dans un couple et comment cette complémentarité peut se retourner contre nous.
Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Sí.
Bonita.
Sí.
Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Baby, I see it's perfect. I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
So sexy, a man fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting,
no fighting, no fighting,
no fighting.
Vous écoutez le chant des colibris où on accueille aujourd'hui Carole et Serge Vidal-Graff, les auteurs de Comment bien se disputer en couple, une façon de se réconcilier avec la dispute au moins.
Alors il y a deux manières de se disputer, il y a ce que nous on a appelé, disons pour se comprendre, les luttes de pouvoir, c'est-à-dire c'est des conflits ouverts et frontaux. Hein, je suis pas d'accord, ça ne va pas, avec ce que tu dis m'énerve, je suis pas d'accord, je veux que ça change, je veux que ce soit autrement. Et donc on va être dans le frontal, donc dans une lutte de pouvoir, hein, explicite. C'est moi qui gagne, c'est toi qui perds. Et puis il y a les jeux de pouvoir, alors qui sont plutôt par la bande, par le côté, où on va essayer de manipuler l'autre pour arriver à ses fins, avec des expressions comme « ça me ferait plaisir si tu », par exemple. Ça, c'est assez... Là, on n'est pas dans le conflit, mais un peu manipulateur. Voilà, on est plus dans la manipulation, dans le jeu de pouvoir. Alors, et dans ces jeux de pouvoir, parce qu'on a du pouvoir, alors ça, c'est une autre conférence qu'on fait, mais qui me semble quand même, que je veux quand même partager ici, c'est l'importance de se réapproprier ce mot de pouvoir et de puissance. On déteste ce mot en général parce qu'on le confond beaucoup trop avec abus. Quand on dit pouvoir, on entend abus de pouvoir. Et je pense que c'est très important de redonner ces lettres de noblesse à ce mot, à cette puissance. Et dans un couple, on est deux puissances, l'une à côté de l'autre. Et on construit des choses, on construit des vies d'enfants, on construit des relations sociales, on construit des carrières avec son pouvoir. Et quand on est en conflit, bah c'est ces deux pouvoirs qui s'affrontent. Et c'est important de mettre ce mot-là.
Donc quand tu parles des jeux de pouvoir, il n'y a rien de négatif là-dedans.
Ça existe. Ça existe. Mmh. Et c'est mieux de les conscientiser et de se rendre compte. Alors,
et de les considérer comme étant naturels et...
Tout le monde se dispute. Je veux dire, les enfants, on voit les enfants, frères et sœurs, ils se disputent. Les conjoints se disputent. On se dispute avec ses parents, on se dispute avec ses amis, on se dispute... Pas tout le temps, mais ça arrive quand on n'est pas d'accord. On n'est forcément pas d'accord. On fait la différence peut-être entre dispute et conflit. Le conflit, on peut être dans un conflit sans émotion. Mais quand on est avec plus on est avec une personne proche, plus il va y avoir de l'émotion dans le conflit et ça va devenir une dispute. Mmh. Ce que je voulais aussi dire, c'était que souvent dans un couple, comme on est dans la complémentarité, il va y avoir un des deux qui va être ce qu'on a, nous, on appelle un passif agressif et un qui va être un agressif défensif. Et ça va très bien ensemble. C'est-à-dire que l'agressif défensif, c'est celui qui va mettre les problèmes sur la table, qui dit « non, ça va pas ». Et le passif, il va dire « mais avec quoi tu viens ? Mais non, pourquoi ? On n'a pas besoin de faire des conflits encore, on est tranquille ». Donc lui, il est plutôt dans lui ou elle, cette personne-là, est plutôt dans le passif. Mais comme il n'est pas frontal, il va faire en sorte, par la bande, c'est pour ça qu'on appelle passif agressif, de mettre l'autre en colère, pour que l'agressif défensif se sente attaqué et se mette en colère, mais frontal. C'est complexe. Hein? Mmh. Et bon, ça, on explique ça mieux dans notre livre. Mais, et ça peut être un homme comme une femme. Mais souvent, on trouve ces deux personnalités dans un couple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être dans un couple avec une polarité et puis se séparer pour X raisons et refaire un autre couple et se trouver dans la polarité inverse. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est fatal. Mais c'est vraiment... de nouveau dans la complémentarité. Je te repasse la parole pour parler de la communication et de notre outil préféré, privilégié.
Oui. Alors effectivement, nous voulons clôturer cette conférence en vous proposant un outil de communication bien spécifique que nous pratiquons avec bonheur depuis, je sais pas, presque 30 ans, je crois, et qui s'appelle l'écoute silencieuse. Alors, ça a l'air un peu tarte à la crème comme ça, mais en réalité, c'est un outil extrêmement puissant et extrêmement constructif et positif. Alors, de quoi s'agit-il ? Comme le nom l'indique, ça veut dire encore une fois prendre rendez-vous, parce qu'une écoute silencieuse, ça ne se pratique pas comme ça à l'improviste entre deux portes. Donc, il faut, comme pour les rendez-vous d'amour, prendre les agendas et fixer le jour où on va pratiquer une écoute silencieuse. On décide lequel des deux parle le premier, et la caractéristique principale, c'est que celui ou celle qui a la parole ne sera à aucun prix interrompu. Donc ça veut dire que celui ou celle qui parle garde la parole jusqu'à ce qu'il dise « j'ai fini ». Et ça veut dire que dans ce temps de parole, il peut y avoir des silences. Ça veut dire que ce n'est pas une forme de communication qui doit se préparer comme une conférence, j'allais dire. Donc, ce n'est pas nécessaire de savoir tout ce que je vais dire. Au contraire, c'est même dommage. Donc, je commence à parler. Alors, à parler de quoi ? Très simplement, de l'état de la relation. C'est principalement ça le sujet important. Où est-ce qu'on en est dans notre vie affective ? Où est-ce qu'on en est dans notre sentiment d'amour ? Où est-ce qu'on en est dans la qualité de la relation en ce moment ? En ce moment et depuis la dernière écoute silencieuse. Je reviendrai sur la question du rythme, mais Carole et moi, on le fait une fois par mois. Donc, l'idée, c'est vraiment, tiens, je prends le temps de revenir sur ce dernier mois et de mettre des mots sur comment je me suis senti dans ma relation à Carole. Comment je me suis senti amoureux, comment je me suis senti pas amoureux, comment je me suis senti bien, confortable ou pas. Donc au niveau affectif d'une part et au niveau sexuel d'autre part aussi. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire à propos de notre vie sexuelle telle qu'elle s'est concrétisée dans le mois qui vient de s'écouler. Et donc je le répète, l'essentiel c'est d'être ce qu'on pourrait appeler une oreille et un cœur ouvert pour celui ou celle qui écoute. Bon, je prends un exemple, on peut évoquer une soirée à laquelle on a été tous les deux. Une soirée dansante. Et je vais en reparler et je vais dire, mais écoute, moi je me suis senti mal pendant cette soirée parce que j'ai l'impression que tu as dansé avec tout le monde sauf avec moi. Et puis Carole va dire, mais enfin non, c'est pas vrai, tu te souviens pas, à un moment je suis venu te chercher et on a dansé ensemble. Aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est, mais qu'est-ce que ça m'a fait? Ça a touché un point fragile chez moi qui est le sentiment d'abandon. Donc voilà. Je te demande pas de ne pas danser avec d'autres, mais est-ce que la prochaine fois, est-ce qu'on peut pas convenir d'une manière qui fait que si possible, je vais pas toucher cette blessure? Et donc, on va vraiment essayer d'aller dans, je le répète, cet espace de vulnérabilité qui permet alors de vraiment s'exposer l'un en face de l'autre. Si je le présente comme ça, Carole ne sera pas dans cet aspect défensif, mais si, je suis venu danser avec toi. Non, elle va entendre qu'effectivement, ça m'a touché, ça m'a blessé. Et on va réfléchir ensemble après sur ce qu'on peut faire avec cette réalité. Mais donc, quand je dis ne pas interrompre, ça veut dire ne pas poser de questions, ça veut dire ne pas faire de commentaires, ça veut dire vraiment être ce que j'appelais tout à l'heure un réceptacle, donc un cœur et une oreille ouverts. Vous verrez que cette façon régulière de faire a des effets, à mon avis, extrêmement positifs. Sur la relation du couple. Un mot sur la fréquence. Donc, comme je vous ai dit, nous, c'est une fois par mois, mais ça, c'est juste un exemple, c'est pas un modèle. Donc, si vous voulez faire ça toutes les semaines, pourquoi pas? Si vous voulez faire ça tous les deux mois, c'est bien aussi. Si vous voulez faire ça une fois par an, à mon avis, c'est pas assez. Donc, voilà, à vous de voir si il y a un rythme sur lequel vous pouvez tomber d'accord. Une dernière chose sur l'écoute silencieuse. Il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui peuvent se sentir mal à l'aise dans l'usage de la parole, ou qui peuvent se sentir mal à l'aise parce que ça dure trop longtemps. Donc, soit on le fait et il n'y a pas de limite de temps, soit pour que l'un des deux se sente plus confortable, on peut dire « ok, mais pas plus d'un quart d'heure chacun » ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un outil, mais la manière dont vous allez le concrétiser, en tout cas j'espère, c'est vous qui devez être inventif pour que ça corresponde vraiment à qui vous êtes et à vos besoins. Toute petite chose encore, l'intérêt de l'écoute silencieuse, c'est si on la fait régulièrement, c'est-à-dire si chaque fois qu'une écoute silencieuse est finie, on prend son agenda pour fixer la suivante, parce que sinon le temps passe et on oublie, c'est qu'on va aussi communiquer à des moments où le couple va bien. Et où donc on va éviter le piège qui est on ne communique que quand ça va mal, on ne communique que quand c'est difficile, on ne communique que quand il y a des conflits. Alors que si on le fait régulièrement, ça peut être un moment super, on va dire oh là là, mais qu'est-ce que j'aime vivre avec toi, quelle femme merveilleuse tu es, et que tu es l'amante la plus géniale que j'ai connue. Ça nourrit aussi la relation.
Alors pour résumer, vous nous proposez d'utiliser un outil que tout le monde a dans son sac à main, principalement, c'est l'agenda, et prendre donc rendez-vous plus régulièrement avec notre amoureux ou notre amoureuse, que ce soit pour des rendez-vous d'amour, donc, et simplement s'allonger l'un contre l'autre et profiter de toute la joie que ça peut nous apporter, ou alors ces rendez-vous d'écoute silencieuse, où là, l'un après l'autre, on va pouvoir dire ce qu'on a ressenti dans la relation à l'autre, comme tu l'as dit Serge, comment on s'est senti amoureux ou comment on ne s'est pas senti amoureux, comment on s'est senti aimé ou pas, et revenir sur ça, le donner en partage à l'autre, pendant que l'autre écoute de façon bienveillante, et puis on change les rôles, et après certainement un temps d'échange entre les deux, une fois que chacun s'est senti vraiment écouté jusqu'au bout, c'est ça?
Exactement, tout bien compris. Mmh. Et vraiment, l'importance pour nous de prendre soin de la relation, c'est-à-dire de prendre du temps pour cette relation. Et pas seulement, c'est pas le simple fait de vivre ensemble qui fait qu'une relation fonctionne. Il faut vraiment lui donner du temps. Si vous avez un ami ou une amie que vous ne voyez jamais, à qui vous ne parlez jamais, c'est vous allez perdre cette amitié. On nourrit ces amitiés, on nourrit ces relations amicales. On va manger au restaurant ensemble, on va voir une exposition, on passe un après-midi à papoter, on se raconte des histoires au téléphone, on prend du temps. Et donc, c'est le risque avec la vie de couple, c'est que le simple fait de vivre ensemble nous semble suffire. Alors que non, il faut qu'on prenne rendez-vous. Et pourquoi ces relations amoureuses fonctionnent bien? C'est parce qu'on se donne rendez-vous. On vit pas encore ensemble, donc voilà, on va au restaurant et on espère bien qu'on va faire l'amour. Donc, on prend rendez-vous et c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer.
Mmh.
Malgré les enfants, malgré les métiers, c'est important, le couple.
Continuer à prendre rendez-vous pour s'aimer, donc. Donnons rendez-vous à l'amour dans nos vies. C'est un très beau programme. Merci beaucoup, Serge et Carole Vidal-Graff, pour tout ce que vous nous avez partagé. Je rappelle que donc votre livre « Couple rêvé, couple réel » est un e-book qui est donc sur votre page Facebook, sur Amazon, sur e-book store et sur le site Kobo. Il me reste encore à vous remercier, voilà.
En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Toutes les émissions sont en podcast sur le site au service du vivant.info. Et pour nous écouter sur les ondes, rendez-vous le premier dimanche du mois à 9h sur RGO.
Dans ma tête, il y a du cœur. Dans mon cœur.